Voici le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Un journal largement consacré aux intempéries dans le sud-est. Des rivières déchaînées, des éboulements, des dégâts considérables. Les Alpes-Maritimes se réveillent ce matin endeuillées et sous le choc. L'école et l'université, premier foyer de contamination en France au Covid-19, selon le dernier bulletin hebdomadaire de Santé publique France. L'autre information de la nuit, c'est l'hospitalisation de Donald Trump à Washington. Le président américain est touché par le Covid-19. Et puis nous irons dans ce journal dans le Haut-Karabakh où les combats font rage depuis une semaine.
Les invités de la matinale, justement, nous serons à 7h54 en ligne avec le directeur général de la protection civile des Alpes-Maritimes. À 7h moins le quart, Patricia, vous recevrez
Alexander Neff, le nouveau directeur de l'Opéra de Paris.
Et puis à 8h20, question ce matin à la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa.
France Inter. 8 mois de pluie en quelques heures, des cours d'eau issus des Alpes, la Vésubie, la Tinée, l'Estéron, des cours d'eau, des affluents du Var déchaînés qui sont venus gonfler donc ce petit fleuve, le Var, dont le débit a battu tous les records dans l'arrière-pays niçois, victime donc de crues exceptionnelles. Des images de fin du monde pour un bilan très lourd et encore provisoire. Météo France avait prévu une très forte tempête automnale sur la France. Alex a tenu ses sinistres promesses. 12 personnes disparues sur ces 12 personnes, 9 disparitions sont avérées car elles ont été emportées par les flots en furie sous les yeux de témoins. Le point avec Justine Leclerc de France Bleu Azur.
D'après le dernier point hier soir à la cellule de crise en préfecture, 9 personnes ont disparu, 2 pompiers, un capitaine de 45 ans et un pompier volontaire de 31 ans. Ils ont été emportés lors d'une intervention à la Bolène-Vésubie. La route sur laquelle ils circulaient s'est effondrée. À Saint-Martin-Vésubie, le commandant de la brigade de gendarmerie a lui aussi disparu. Il est âgé de 52 ans. Toujours dans la vallée de la Vésubie à Roqueville, hier, un couple d'octogénaires de 84 et 87 ans a vu l'eau monter. Ils se sont réfugiés sur le toit de leur habitation, mais leur maison a finalement été emportée par les eaux. Une maison avec un occupant a également été détruite à Breil-sur-Roya. 2 personnes dans leur voiture ont également été emportées à Breil. Un automobiliste a lui aussi disparu à Tende. Les pompiers ont également des doutes pour 3 autres personnes. Une personne à Saint-Martin-Vésubie, à Roqueville, hier et à Tende. Dès ce matin, des hélicoptères doivent partir en reconnaissance pour affiner et préciser le nombre de victimes.
Il y avait, selon Enedis, hier à 22h, 13 500 foyers privés d'électricité dans le département. L'armée a été appelée en renfort pour aider les Alpes-Maritimes. Mais avant le lever du jour, les dégâts étaient considérables, comme l'explique Charles-Ange Ginesi, le président du conseil départemental.
Il y a beaucoup de routes qui sont détruites, il y a beaucoup de villages qui sont isolés. On a le village de Tende qui est totalement isolé avec un effondrement de route sur plus de 300 mètres. C'est quelque chose de dramatique ce qui se passe dans le département des Alpes-Maritimes avec des crues centennales, avec des ponts qui sont emportés, qui existaient, qui avaient résisté à la crue de 94 qui avait déjà été une crue historique dans l'ensemble, que ce soit les routes métropolitaines, les routes départementales, il y a de gros dégâts et effectivement cette chape d'eau qui s'est déjà abattue sur le département avec par endroit plus de 300 mm d'eau. Donc vous voyez que la situation est quand même très très difficile.
Charles-Ange Ginesi, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Alors Saint-Martin-de-Vésubie, Roquebillière ou Tende ont été très touchés, mais également la commune de Breil-sur-Roya. Cependant, son maire Sébastien Olaran pense avoir été relativement épargné par rapport à ses voisins.
On a énormément de chance. Quand on voit l'étendue de ce qui est tombé comme morceaux de façade, comme tuiles, comme pots de fleurs, c'est vraiment un miracle que personne n'ait été blessé. Mais bon, voilà, on a quand même des personnes qui se retrouvent sans toiture à leur domicile. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Sur la commune de Breil, en tout cas. Sur le haut de la vallée, je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'un gendarme a été assez sérieusement blessé au visage par une branche. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus.
Le maire de la ville de Breil-sur-Roya. La dégradation se déplace désormais sur l'Italie. Le département des Alpes-Maritimes n'est plus en vigilance rouge depuis 6 heures ce matin, mais reste en orange comme 3 autres départements, les Alpes de Haute-Provence, la Corse du Sud et les Côtes d'Armor, car la tempête Alex n'en a pas fini avec la Bretagne où sont attendues de fortes précipitations aujourd'hui et un vent fort devrait souffler sur les côtes. Enfin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place. Le Premier ministre, Jean Castex, pourrait venir lui aussi dans les Alpes-Maritimes pour se rendre compte sur place des dégâts occasionnés par le passage de cette tempête. L'autre actualité de ce samedi, c'est bien sûr le Covid-19. Une semaine après Marseille, l'exécutif pourrait fermer les bars à Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Saint-Étienne, et cela dès lundi. Hier en Ile-de-France, selon l'ARS, le taux d'occupation des lits en réanimation a dépassé le seuil critique. Idem pour le taux d'incidence. Il dépasse les 260 cas pour 100 000 habitants. Et c'est l'un des critères qui fait basculer ou non une ville en état d'alerte maximale. Alors les bars, au lieu de contamination, certes, mais ils ne sont pas les seuls. Selon le dernier bulletin hebdomadaire de Santé publique France, près de 36% de la totalité des clusters sont en cours d'investigation et ils sont survenus en milieu scolaire et universitaire. C'est le milieu le plus touché devant les entreprises privées et publiques pour 18,5%. Hélène Chevalier.
Ce sont les collèges, les lycées et les universités qui représentent le plus grand nombre de foyers de contamination. Parmi eux, près d'un sur deux a lieu dans un établissement secondaire. Des clusters avec en moyenne 7 personnes testées positives. Si les universités comptent moins de clusters, 1 sur 3, leur ampleur est tout autre. En moyenne, 24 cas positifs. Dans sa dernière note publiée jeudi soir, le conseil scientifique pointait justement du doigt les soirées étudiantes et les rencontres dans les bars. Malgré cette recrudescence de l'épidémie dans le milieu étudiant, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a écarté, en tout cas pour le moment, l'hypothèse d'une fermeture généralisée des universités. Plus épargnées, les écoles primaires représentent-elles moins de 15% des foyers de contamination, un peu moins de 7% pour les maternelles, des chiffres qui corrobore plusieurs études sur la faible contagiosité des enfants de moins de 10 ans.
Hélène Chevalier. L'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est l'état de santé du président américain contaminé par le coronavirus. Il a été transféré hier dans un hôpital militaire près de Washington. Le président est soigné par un traitement expérimental avec des anticorps de synthèse. Il est fatigué, mais le Covid-19 ne l'empêche pas de tweeter comme à son habitude. Je vais bien, je pense, mais merci à tous. Donald Trump a reçu du monde entier des vœux de bon rétablissement de son adversaire à la présidentielle, Joe Biden, au couple français Emmanuel et Brigitte Macron, en passant par Barack Obama ou encore le leader nord-coréen. Les combats se poursuivent pour le 6e jour consécutif dans le Haut-Karabakh, enclave séparatiste à majorité arménienne en Azerbaïdjan. Erevan se dit prêt à s'engager vers un cessez-le-feu, mais pour Bakou, la seule solution pour l'arrêt des combats, c'est le retrait des forces arméniennes de la région. La journée d'hier a été marquée sur le terrain militaire par d'intenses échanges de tirs entre Arméniens et Azéris dans ce Haut-Karabakh. C'est le reportage de Claude Brouillot.
Arthur, le chauffeur arménien du minibus, a stoppé son véhicule à couvert derrière un talus.
Oh, c'était l'air, d'où
il frappe de deux côtés, oui.
Sur la route entre la capitale du Haut-Karabakh arménien et Martinker, la ville la plus au nord-est de l'enclave, les bombardements azéris hier étaient très réguliers. Le scénario se répète depuis bientôt une semaine et il fait dire à Ramzi, un retraité arménien né en Azerbaïdjan, que le conflit prend maintenant une autre tournure.
Ce ne sont pas seulement des tirs, c'est la vraie guerre qui a commencé depuis quelques jours. Il faut bien comprendre pourquoi. Ce n'est pas à cause de l'Azerbaïdjan. C'est la Turquie qui pousse derrière les Azéris pour qu'ils recommencent la guerre. Ça nous fait peur que la Turquie les aide. La Russie n'aide pas les Arméniens, alors ça nous fait peur.
En plus des bombardements sur la ligne de front, Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, a été prise pour cible hier soir à plusieurs reprises par les tirs azéris. De nouvelles frappes qui interviennent alors que le gouvernement arménien s'est dit prêt à entamer des démarches pour établir un cessez-le-feu. Un premier pas diplomatique balayé par le pouvoir azerbaïdjanais qui accentue encore sa pression sur le terrain militaire. Stepanakert, Claude Brouillot, France Inter.
Un mot de sport, un jeune français en 8e de finale à Roland-Garros, Hugo Gaston, 20 ans, 239e joueur mondial. Il a réalisé l'exploit hier d'éliminer le Suisse Stan Wawrinka, triple lauréat en Grand Chelem en 5-7. Un match en 5-7 d'ailleurs, c'était une première aussi pour le Toulousain, dont c'est la première participation au tableau principal du tournoi. En tout cas, au prochain tour demain, il va défier, ça aussi ce sera une première. L'Autrichien Dominic Thiem, numéro 3 mondial, récent vainqueur de l'US Open, pour, espérons-le, une place en quart de finale.
Eh bien, on suivra ça effectivement avec intérêt. C'était le journal de Laurence Thomas.